Bienvenue sur le podcast de l'Église Vie. Bonne écoute.
Donc oui, ce matin, j'aimerais vous parler d'Esther dans la Bible. En fait, c'est le livre que j'ai lu quand Talia était à l'hôpital avec sa bronchiolite sévère. Ben voilà, on avait un peu du temps aussi à tuer, entre guillemets. Et c'est le moment où oui, j'ai repris le livre d'Esther, je l'ai lu en entier. Clayton m'avait offert un roman biblique, donc un roman un peu fictif ou romancé, l'histoire d'Esther. Là, c'est Esther dans la Bible, c'est 10 chapitres. Et il m'avait offert un roman de 300 pages de la vie d'Esther. Donc, j'ai beaucoup aimé lire ça aussi. Et puis, voilà, me dire que ce n'est pas la vérité, mais ça aurait pu se dérouler comme ça. C'était intéressant. Et après, j'ai approfondi. J'ai beaucoup aimé l'histoire et j'ai écouté des messages, lu des livres dessus. Et donc, j'aimerais vous partager un petit bout de ce que j'ai pu apprendre sur ce livre. Avant de prendre juste un petit bout du livre d'Esther, j'aimerais vous le résumer. Alors bon, c'est quand même 10 chapitres, donc ça ne va pas être très court, mais on va y aller. Et puis comme ça, vous comprendrez bien le petit bout qu'on va prendre ensemble après. Donc l'histoire, elle se passe à peu près 475 ans avant Jésus-Christ, et c'est après l'Exode en Babylone. C'est à peu près un demi-siècle après la victoire de Nabucodonosor et quand son empire tombe aux mains du roi Cyrus II de Perse. Et donc ce roi-là avait autorisé les Juifs qui avaient été exilés à Babylone à pouvoir retourner en Israël, en Judée. Et certains l'ont fait, mais d'autres sont aussi restés dans l'empire perse parce que c'était un empire très moderne à l'époque et du coup aussi très prospère. Et donc, il se faisait bon vivre là-bas. Donc, certains ont fait le choix de rester. Donc, c'est dans ce contexte-là que se passe l'histoire. Et dans la troisième année du règne du roi Xerxès, qui est le roi perse de l'époque, il organise dans la capitale de Suse un grand banquet pour les grands personnages de l'époque, de l'Empire. Et pour montrer vraiment son prestige et la grandeur de son empire, le banquet il dure 180 jours. Voilà, juste pour montrer sa richesse, le côté glorieux de son royaume. Et il finit ses 180 jours par faire encore 7 jours de banquet qui sont ouverts à tout le peuple. Donc là, il invite tout le monde et il y a une cour pour les hommes et une cour pour les femmes. Et lors de ce banquet-là, qui est ouvert à tout le peuple, le 7e jour, le dernier jour du banquet, il envoie 7 de ses eunuques, 7 de ses serviteurs, d'aller chercher la reine, Vashti, s'appelait-elle à l'époque, pour qu'elle vienne dans la cour des hommes montrer sa beauté à tout le monde. La reine a dit non. Elle a dit, je ne viens pas. Et donc, les conseillers du roi ont quand même dit, bon là, tu as tous les gouverneurs autour de toi, tous les gens importants. Toi, ta femme, elle te dit non devant tout le monde. Ça sent pas bon pour l'Empire. Imagine maintenant si toutes les femmes de tout le monde prennent cet exemple-là. Faut que tu réagisses, faut que tu fasses quelque chose. Et donc le roi a un peu les mains liées et il décide de déchoir sa reine. Vashti est déchue et elle n'est plus autorisée à être en présence du roi. Et donc les conseillers du roi lui disent bah, on va organiser un petit Miss Perse, un petit Miss France, concours pour la nouvelle reine. Et donc, ils vont aller dans tout l'Empire ramener des jeunes filles très belles pour les présenter au roi, pour que le roi puisse faire son choix parmi toutes les belles jeunes femmes qui lui seront présentées pour avoir sa nouvelle reine. Et c'est là qu'Esther entre en jeu. En effet, Esther vivait à Suse. Elle était une orpheline qui avait été adoptée par Mardoché, qui était son cousin juif. Et Mardoché était un fonctionnaire royal, donc lui, il travaillait pour le roi. Mardoché était juif, Esther était juive. Mais dans sa façon de la faire grandir, Mardoché avait toujours dit à Esther de cacher le fait qu'elle était juive. Donc elle a toujours caché cette partie de son identité. Ça fait Esther était très belle et elle a fait partie des jeunes filles qui ont été emmenées devant le roi pour se présenter. Il faut savoir que, bah, il fallait qu'elles soient très belles, ces jeunes femmes, et donc elles ont eu un an de préparation avec des lotions et des crèmes et des bains et des parfums pour se préparer, pour être au top de leur beauté pour se présenter devant le roi. Et après un an de préparation, Esther se présente devant le roi et elle est choisie pour être la reine. Donc le roi de l'Empire perse choisit pour épouse une juive sans le savoir, parce qu'elle lui cache son identité. Mardochée, son cousin qui est toujours fonctionnaire royal, il surprend deux eunuques, deux serviteurs du roi, qui sont en train de comploter contre le roi pour essayer de le tuer. Et il se dit, mince, il faut que je puisse réagir. Ma seule porte d'entrée, c'est d'en parler à Esther, qui est la reine, mais qui est ma cousine. Et donc, il lui rapporte les faits. Esther rapporte les faits au roi et le complot est déjoué. Le roi est sain et sauf. Et rappelez-vous bien de cet épisode-là, parce qu'il aura une importance plus tard. Les années passent, le règne passe, et à partir de la 12e année du règne de Xerxès, le roi, il va nommer ce qu'on pourrait appeler chez nous un premier ministre qui s'appelle Aman. Et le roi impose à toutes les personnes qui sont fonctionnaires royales de se prosterner devant Aman quand ils seront en sa présence. Mardochée, qui est toujours fonctionnaire royal, refuse, lui, de se prosterner devant Aman. Et quand les gardes l'interpellent par rapport à ça, il lui répond qu'il est juif et que c'est pour ça qu'il ne le fait pas. Aman, il est pris de colère parce que c'est une personne un peu, je pense, qu'on le lit à travers l'histoire, entre les lignes, quelqu'un d'imbu de sa personne. Quelqu'un qui, voilà, il en profite que tout le monde se prosterne devant lui. Ça lui fait du bien à son ego. Et là, une personne refuse de le faire et il commence à concocter des plans pour essayer d'éliminer cette personne. Mais il se dit, c'est trop petit, en fait. Et quand il apprend que, justement, cette personne est juive, il se dit, OK, ben, je vais, du coup, élargir mon plan. Et il projette d'exterminer tous les juifs de l'Empire. Il faut savoir que l'Empire perse, à cette époque-là, il allait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie en passant par la Judée. C'est quand même énorme. Ce qui revenait quasiment à anéantir tout le peuple juif, soyons d'accord. Et donc, pour savoir quand il allait mener à bien son plan d'exterminer tous les Juifs, il a fait une sorte de tirage au sort. Il a jeté les dés, entre guillemets, pour savoir quel jour il mènerait à bien son plan. Et le jour qui a été choisi ou tiré au sort, c'était le jour le 13e jour du dernier mois de l'année. Donc, ça laissait encore un peu de temps pour préparer son plan. Mardochée, le fonctionnaire royal juif, apprend que ce décret a été signé par le roi, que le 13e jour du dernier mois de l'année, il y aura cette extermination des juifs. Et il en est anéanti. Il parcourt les rues, il a mis des vêtements déchirés, il se revêt d'un sac, de cendres. Vous savez un peu cette tradition juive de montrer qu'on est dans la peine. Et Mardochée, une fois de plus, fait remarquer à Esther que ce décret a été signé, que ça va être mené à bien. Et surtout, il l'avertit. Il lui dit, ce décret, il concerne tous les Juifs. Va pas croire, toi, Esther, que parce que t'es la reine, tu seras mise à l'abri, tu seras à l'écart de ça. Et on reviendra sur ce passage-là tout à l'heure. Esther ne sait pas trop comment réagir et elle dit, ben, on va jeûner pendant 3 jours. Moi, je vais jeûner avec mes servantes dans le palais royal. Toi, Mardochée, rassemble tous les juifs de Suse et de votre côté, jeûnez aussi pendant 3 jours pour que le moment puisse être opportun pour 3 choses. Pour qu'elle puisse se présenter devant le roi, Xerxès, pour qu'elle puisse du coup lui révéler qu'elle est juive, ce qu'elle lui a toujours caché, et qu'elle puisse par la même occasion le supplier d'implorer son peuple, d'épargner son peuple. Vous allez me dire, mais pourquoi elle demande à un jeune de 3 jours, c'est son mari, enfin, elle peut aller le voir, c'est quoi l'enjeu, pourquoi ? Il faut savoir qu'elle risque sa vie en faisant ça. Pour être en présence du roi perse, dans l'Empire perse, il fallait être appelé par le roi. On ne pouvait pas se présenter au roi au moment où on le voulait. C'était le roi qui imposait et qui appelait les gens. Et là, Esther raconte que ça fait déjà 30 jours qu'elle n'a pas été appelée par le roi, qu'elle n'a pas été dans sa présence. Et que si on se présente sans avoir été appelé, normalement, le sort qui nous attend, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. Il n'y a qu'une seule façon pour le roi de montrer qu'il est d'accord avec cette visite inattendue, c'est qu'il étende son sceptre d'or vers la personne. Et là, ça montre à tous ses gardiens et ses eunuques que, OK, la personne peut entrer, je suis d'accord. Et en fait, Esther, j'imagine qu'elle avait très peur parce qu'elle sait que son roi, le roi Xerxès, il mène à bien ses exécutions. Il a quand même déchu sa reine Vashti, alors que c'était un moment de grand banquet et tout ça. Donc il se dit, voilà, il pourrait aussi, moi, me faire mourir quelque part si je me présente au mauvais moment ou qu'il n'est pas d'accord. Ou... Et donc, après 3 jours de jeûne, Esther va voir le roi et il étend son sceptre d'or vers elle. Elle reçoit la faveur du roi. Elle lui dit, ben, je t'invite à dîner, toi et Aman, ce fameux premier ministre, et je vous accueillerai avec un banquet. Donc, ils acceptent et ils viennent au festin d'Esther. Et le roi lui dit, mais pourquoi nous as-tu invité pour un festin, pour un banquet? Quelle est ta demande? Demande-moi même la moitié de mon royaume et je te la donnerai. Et elle lui dit, non, c'est pas ça que je demande. Je vous réinvite demain pour le même banquet et je te demanderai là quelle est ma requête. Et là, OK. Ils acceptent, le roi et Aman, de revenir le lendemain. Aman, lui, il est au plus haut de sa forme. Il est super heureux. Il se dit, attends, de tout l'Empire perse, moi, j'étais le seul à être invité en présence du roi et de la reine, tout seul. Je suis vraiment quelqu'un d'important. Et là, cette personne, un peu en but de sa personne, avec son ego, il rentre chez lui le soir et il se dit, waouh, là, je suis vraiment au top, je suis vraiment très important. Mon plan que j'ai depuis tout à l'heure, là, de Mardoché qui ne veut pas se prosterner devant moi, des Juifs, tout ça, je vais le mener à bien. Et il rentre chez lui et il est encouragé par sa famille à mettre son plan en action et donc à faire mourir Mardoché. Il fait construire dans la cour de sa maison une potence de 25 mètres de haut pour y faire pendre Mardoché. Encore une fois, rappelez-vous bien de ça, ça reviendra plus tard. Et cette nuit-là, donc après le premier festin, le roi il va se coucher, mais il n'arrive pas à dormir. Il est pris d'insomnie, si on peut le dire comme ça. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Et il demande à ses serviteurs qu'on lui lise les chroniques, les annales du roi. Il paraît que c'était un bon somnifère pour l'époque. Au bout de 15 minutes, on pourrait s'endormir. Mais lui, non, le roi Xerxès ne trouvait pas le sommeil. Et la lecture continue, jusqu'à ce qu'un des serviteurs lise le passage où est rappelé que Mardoché avait prévenu la reine Esther du complot de deux eunuques et que ce complot a été déjoué. Vous vous rappelez de ça, au début? Le roi arrête le serviteur dans sa lecture et demande « Mais est-ce qu'il a été récompensé, Mardoché, pour ça ?» On lui informe que non, ce n'est pas écrit dans les annales, il n'a pas eu de récompense. Donc le matin se lève et Aman arrive dans la cour du roi, super bien dormi, il a construit sa potence, il sent que là, c'est le moment, il va pouvoir avoir l'accord du roi pour faire pendre Mardoché. Et le roi est le premier à parler et lui demande « Mais que convient-il de faire pour l'homme que le roi désire honorer ?» Il est dans cet état d'un but de sa personne. Il dit, oh, ça me concerne. Oh, c'est bien. Alors, il lui dit, un homme que le roi désire honorer, oui, on doit lui mettre un manteau que le roi lui-même a porté. On doit le faire s'asseoir sur un cheval que le roi lui-même a monté. Et on doit lui faire parcourir la ville avec quelqu'un qui crie, voilà ce que l'on fait pour un homme que le roi désire honorer. Et le roi lui répond, très bien, ça, tu vas le faire à Mardoché. Et là, boum, ascenseur émotionnel. Il se dit, OK, le plan de ma potence, ce n'est pas pour aujourd'hui, mince. Et donc, Aman se retrouve toute la journée à devoir faire le tour dans la ville de Suse avec Mardoché assis sur le cheval du roi, dans les manteaux du roi, et à proclamer, voilà ce qu'on fait pour l'un homme que le roi désire honorer. Et le soir a lieu ce deuxième festin, toujours en présence que du roi, que d'Esther, la reine, et Aman. Et c'est là où le roi redemande, mais Esther, quelle est ta demande? Si tu me demandes la moitié de mon royaume, même je te la donnerai. Elle dit non, c'est pas ça. Ce que je te demande, c'est pour moi et mon peuple d'avoir la vie sauve. Là, le roi, il tombe de haut. Il dit, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Et elle lui révèle que c'est ce décret qui la met en danger. Et donc, elle lui dévoile qu'elle est juive. Elle lui dévoile que sa vie est en péril. Et le roi, d'un coup, est très déboussolé. Il demande, mais qui est à l'origine de tout ça? Elle dit, ben, la personne qui est assise juste là en face de nous, Aman. Et le roi, il se retire dans les jardins du palais royal. Il ne sait pas comment réagir face à cette situation. Aman sent qu'il est pris au piège et il s'incline aux pieds de la reine. Il dit, il l'implore pour la vie sauve. Change la situation, fais quelque chose. Et quand le roi revient des jardins du palais, il surprend Aman comme ça au pied de sa femme et il dit, mais il est peut-être déjà en train de la tuer, ma femme. Et donc, il demande tout de suite à ce que Aman soit lui-même pendu à la fameuse potence qu'il avait construite pour son ennemi, pour que lui-même y soit pendu. Et donc, Aman est pendu à la potence qui était prévue pour Mardoché. Pour régler cette situation, il faut savoir qu'un décret du roi de l'Empire perse ne pouvait pas être irrévoqué. Donc, il était quand même coincé. Ce décret d'exterminer les Juifs, le 13e jour du dernier mois de l'année, était toujours actif. Donc, la seule façon de faire, c'était d'écrire un nouveau décret. Et un nouveau décret a été écrit, autorisant cette fois-ci les Juifs à se défendre et à massacrer leurs ennemis qui les attaqueraient ce fameux jour-là. Et le 13e jour du dernier mois de l'année est arrivé. Et les Juifs, en effet, se sont défendus et ont massacré tous leurs ennemis. Et les Juifs n'ont pas été exterminés. Et suite à cela, une grande fête a été organisée, s'appelle la fête de Pourim. Et c'est une fête qui est encore célébrée aujourd'hui par le peuple juif, qui ressemble un peu à un carnaval, où les filles se déguisent en reine Esther et les garçons en Mardoché. Et voilà, c'est une fête où on célèbre que le peuple juif n'a pas été exterminé. Voilà un petit peu le résumé pour l'histoire d'Esther. J'espère que c'est bien clair dans votre tête et que je n'ai pas été trop longue, que je ne vous ai pas perdu. Avec vous, j'aimerais prendre le passage qui se trouve dans le chapitre 4 et qui va du verset 10 au verset 17. Esther au chapitre 4, des versets 10 à 17. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché. Celle-ci, on parle de Esther, et elle chargea un des serviteurs d'aller dire à Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché. Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, n'a le droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelée vers lui. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permette d'être sauvée, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et Esther fit répondre à Mardoché. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. » Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Je pense que vous arrivez à resituer le passage dans l'histoire d'Esther. C'est quand le décret avait été signé, que Mardoché était dans ses habits déchirés, vêtu d'un sac et de cendres, et qu'il apprend tout ça, il en informe Esther, et voilà un peu comment elle réagit. Et donc, à travers ce passage-là, j'aimerais reprendre 5 points avec vous, simplement, de choses que j'ai retenues et que je pense peuvent nous interpeller dans nos vies encore aujourd'hui. Le premier point, c'est l'importance d'être entouré de bons conseillers. En effet, on voit qu'Esther, elle apprend que ce décret est signé, que ça concerne tous les Juifs, et sa première réaction, c'est celle de la peur. C'est souvent comme ça qu'on réagit, nous aussi, en temps de crise. Elle se rend compte que mince, mon peuple est attaqué, mais ça me concerne aussi, je ne sais pas trop comment réagir, et puis surtout, moi, je ne vais pas me mettre à enfreindre la loi, et moi, je risque ma vie, là, quand même. Et c'est la peur qui parle. Et souvent, quand on est visé ou quand ça nous concerne, on cherche un peu à se déresponsabiliser, à chercher des excuses, à se cacher, à se faire discret, à ne pas se faire remarquer. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette fameuse loi dans l'Empire perse qui dit qu'on ne peut pas juste s'approcher du roi. C'est le roi qui est autoritaire de toute chose et c'est lui qui appelle les gens pour s'en approcher. Donc Esther voit très bien le danger qu'elle encourt, elle le dit très bien. Il n'y a qu'un seul verdict, la mort. Normalement, c'est ça qu'elle encourt. La seule exception, c'est si le roi va tendre son sceptre d'or et accepter sa présence. Et donc, pourquoi l'importance d'être entourée de bons conseillers ? Parce que Esther, elle aurait pu suivre sa première intuition, la peur, et se dire « je fais rien ». J'en reste là. Mardoché aurait même pu acquiescer, lui dire « Ah oui, c'est vrai, je comprends, c'est difficile comme situation. » Et on aurait eu une toute autre histoire, j'imagine. Mais Mardoché est un très bon conseiller parce qu'il lui dit la vérité, n'a pas peur des conséquences, et lui dit ce qu'elle doit entendre. Il lui dit « Mais t'es concernée par cette situation ?» Si tu n'agis pas maintenant, ta famille et toi, vous mourrez. En gros, toi et moi, on va mourir. Tu es orpheline, tes parents sont déjà morts, je suis ta seule famille qui reste. Et ça veut dire tout le peuple juif. Et comme elle est bien conseillée, elle met les choses en action. Et elle est très sage, justement, pour le faire. Elle ne dit pas « Ok, j'y vais tout de suite ». À bientôt Mardoché, et puis elle va tout de suite dans la cour du roi. Non, elle sait que les choses ne sont pas entre ses mains. Et ça, on y reviendra un peu tout à l'heure. Donc je ne m'avance pas tout de suite dessus. Donc le premier point que j'ai retenu, c'est l'importance d'être entouré de bons conseillers qui n'ont pas peur de nous dire les choses comme on doit les entendre. Le deuxième point que j'ai noté, c'est n'imaginons pas qu'une position terrestre ou un statut social nous sauvera de quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, suite au 7 octobre, quand le Hamas avait été rentré en Israël et avait pris beaucoup d'otages et a tué de nombreuses personnes, suite à cet événement-là, le premier ministre iranien, devant l'Assemblée nationale iranienne, avait proclamé que c'était bien fait pour les Juifs et que c'était l'occasion d'y aller et de tuer tous les Juifs. Au moment même où il prononce ces paroles, il est pris d'une crise cardiaque et il décède. Il n'y a pas une position sociale ou un statut de quoi que ce soit qui nous sauve. Notre vie est entre les mains de Dieu, en toute chose. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit retenir, nous, aujourd'hui aussi. C'est pas notre position terrestre, c'est pas là-dedans qu'on doit chercher du réconfort. Ce n'est pas là qu'on doit chercher un appui, mais en Dieu seul, parce que c'est lui qui a toute chose entre ses mains. Et justement, ça nous rassure, nous qui sommes des gens ordinaires, on n'est pas les premiers ministres de notre pays, que justement, même là, on a un rôle à jouer. Et je voudrais vous citer un autre exemple, qui est Corrie ten Boom. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme-là. C'est une femme hollandaise, qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et son papa était horloger. Et donc, ils avaient une maison à 2 étages. Et le rez-de-chaussée, c'était la boutique de l'horlogerie. Et le premier étage, c'était leur maison. Donc, en grandissant, elle devient horlogère, juste parce que son père était horloger. Ils suivent et elle reprend la boutique. Et arrive la Seconde Guerre mondiale et le plan aussi, comme ici, d'exterminer les Juifs. Et cette simple horlogère, elle décide d'aller à l'encontre de ça. Et elle fait construire une pièce secrète dans sa maison où elle peut cacher des Juifs. Et grâce à cette pièce secrète, à son parcours, à son courage, elle a sauvé plus de 800 Juifs pendant cette période-là. Ce n'était pas une première ministre, ce n'était pas quelqu'un d'important. C'était quelqu'un comme vous et moi qui avait un simple travail, une famille. Elle n'avait pas peur de perdre sa position terrestre. Elle savait qu'il y avait un plus grand enjeu. Et ici, c'est pareil. Esther, elle ne s'en remet pas à son roi terrestre. Elle ne va pas tout de suite parler au roi Xerxès pour dire « il y a cette situation, mince, et puis au fait, moi, je suis juive aussi, coucou, du coup, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, la première chose qu'elle fait, c'est de mettre en place ce jeûne et du coup, de s'en remettre aux mains de son roi céleste. Et ce jeûne, c'est exactement ça. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est juste dire à Dieu « moi, mes servantes, Mardoché et tous les Juifs de Suse, on est d'un commun accord pour se remettre entre tes mains. Peu importe quelle sera ta volonté, mais voilà notre cœur. » C'est juste ça que ça montre. Ce n'est pas une formule magique pour toujours aboutir à ce qu'on veut, surtout pas. Mais c'est ça que ça montre. Elle ne s'est pas réfugiée dans sa position terrestre de reine, en se disant « moi, de toute façon, rien ne m'arrivera ». Non, elle s'est remise entre les mains de Dieu. C'est mon deuxième point. Troisième point que j'en tire, c'est que tu es indispensable, mais pas irremplaçable. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on entend parfois. On est indispensable, mais pas irremplaçable. On le voit dans un des versets, quand Mardoché, justement, la conseille très, très bien. C'est au verset 14, oui. « En effet, si tu gardes le silence maintenant, Esther, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Dieu, il peut tout faire. Oui, Esther, Dieu t'a placée probablement là, en tant que reine, pour que tu aies ton rôle à jouer. Mais t'inquiète pas que Dieu, il peut faire aussi autrement. Donc oui, tu es indispensable, tu as ton rôle à jouer. Mais si tu ne le fais pas, sache que le plan de Dieu, il s'accomplit quand même. C'est juste que toi, tu passes à côté de quelque chose. Et il n'y a pas qu'Esther qui est indispensable ici. Je vous le rappelle depuis le début, mais Mardoché fait le jeûne aussi. Tous les Juifs de Suse font le jeûne aussi. Les servantes d'Esther, je ne pense même pas qu'elles sont juives, mais font le jeûne aussi. Et c'est la compilation de tout ça qui mène au bon déroulement de la suite de l'histoire. Je ne sais pas, on peut imaginer que sans le jeûne de certaines personnes, ça n'est pas abouti. Mais tout le monde est indispensable. Mais par contre, personne n'est irremplaçable. Parce que ce n'est pas Esther qui est souveraine ici, dans le livre d'Esther. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu. Donc oui, tu es indispensable, mais pas irremplaçable. Quatrième point, pour une circonstance telle que celle-ci. C'est ce qu'il nomme aussi là dans ce même verset, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait? Et ça, c'est parfois une question qu'on se pose, nous, dans nos vies. Qui sait si ce n'est pas pour une circonstance telle que celle-ci que j'ai ce travail-là avec ces collègues-là? Qui sait si ce n'est pas pour une circonstance telle que celle-ci que on a investi dans cette maison et qu'on a ces voisins-là? Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais rappelons-nous les trois autres points que j'ai cités tout à l'heure. L'importance d'être entouré de bons conseillers qui peuvent nous montrer les choses, les situations qu'on traverse, les temps qu'on traverse. Qu'on ne s'imagine pas que c'est notre position terrestre qui nous sauve de quoi que ce soit. Et qu'on est indispensable là où on est placé pour un temps comme celui-ci, pour une saison telle que celle-ci, mais qu'on n'est pas irremplaçable. Dieu est souverain. Et donc ça, c'est peut-être un réconfort qu'on peut trouver dans nos temps de crise, comme Esther qui se dit, ben mince, oui, je comprends bien, le décret, tout ça, ça ne va pas, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je risque ma vie, là. Et parfois, on peut se trouver comme ça aussi dans des temps de crise et se dire, ben mince, si je fais ça, je risque la perte de mon boulot. Si je fais ça, je risque que ma famille ne me parle plus. Je risque de perdre mes finances. Je peux risquer plein de choses. Mais à ce moment-là, posons-nous cette question. Mais qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que... Et je vous laisse remplir la fin de la phrase. Et mon dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est que la foi s'accompagne d'action. Ici, le peuple ne fait pas que jeûner. Et ça, c'est un vrai enseignement, je pense, pour nous. C'est que parfois, on prie, parfois on jeûne pour une situation et on s'arrête là. Là, Esther aurait pu jeûner avec ses servantes, avec Mardoché et avec les Juifs de Suse pour que le cœur du roi change d'avis, pour qu'il change son décret par lui-même, pour qu'il appelle Esther dans sa cour intérieure. Ils auraient pu prier pour ça et ne rien faire. Mais non, ils ont prié, ils ont jeûné, et à la fin des 3 jours, Esther a mis sa foi en action. Elle a été dans la cour intérieure du roi le rencontrer, en enfreignant la loi et en risquant sa vie. Elle l'a invité pour un premier festin. Elle l'a invité pour un deuxième festin. Et là, elle a tout dévoilé. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense, d'important dans nos vies. Et nous qui nous rassemblons souvent les mardis soirs pour prier, sachons que c'est important de le faire. Et c'est sûrement la première pierre à mettre dans notre vie. Mais la pierre de la prière s'accompagne de nos œuvres, de la foi, de l'action. De se dire, ok, j'ai tout remis entre tes mains. Maintenant, je te fais confiance et j'agis. C'est la crise, j'ai peur, mais j'agis. Je mets des choses, je risque des choses pour toi, pour ton peuple, pour ta volonté, pour ton plan. Donc voilà les 5 points que je tire de ce petit passage de l'entièreté du livre d'Esther qui, je pense, peuvent encore résonner dans nos vies aujourd'hui. Le premier, c'était l'importance d'être entouré de bons conseillers qui n'ont pas peur de nous dire les choses. Deuxième point, c'est n'imaginons pas qu'une position terrestre nous sauvera de quoi que ce soit. Troisième point, on est indispensable, mais pas irremplaçable. Quatrième, pour une circonstance telle que celle-ci, 3 petits points. Et le 5e, la foi s'accompagne d'action.
Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.